La lecture maintenant dans 1 Samuel 25, et c'est notre cher frère Luc, le mari de Monique, qui nous a présenté les camps, qui va faire cela pour nous. Donc c'est 1 Samuel 25, de nouveau nous allons projeter ça, verset 18 au verset 35. Donc 18 à 35. Merci Luc.
18 à 35. Abigaïl partit vite. Abigaïl prit vite 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons apprêtés, 5 serres de grains rôtis, 100 gâteaux de raisins secs et 200 gâteaux de figues sèches qu'elle mit sur des ânes. Elle dit à ses serviteurs : passez devant moi, je vous suis. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit par un versant de la montagne. David et ses hommes descendaient en face d'elle, de sorte qu'ils la rencontrèrent. David avait dit : c'est bien à tort que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu fasse ceci à David et qu'il ajoute cela. Si je laisse subsister jusqu'au matin un seul mâle de tous ceux qui appartiennent à Nabal. Lorsqu'Abigaïl aperçut David, elle s'empressa de descendre de l'âne, puis elle tomba face contre terre, prosternée devant David. Tombant à ses pieds, elle dit : à moi la faute, mon Seigneur. Laisse-moi te parler, je t'en prie, écoute mes paroles. Je suis ta servante, je t'en prie, ne fais pas attention à Nabal, c'est un homme sans morale. Il est comme son nom c'est Nabal, fou, et il y a chez lui de la folie. Moi, je n'ai pas vu les gens que tu as envoyés. Maintenant, par la vie du Seigneur et par ta propre vie, c'est le Seigneur qui t'a empêché de verser le sang et d'assurer toi-même ton propre salut. Que tes ennemis, que ceux qui cherchent à te faire du mal, soient comme Nabal. Maintenant, que le cadeau que je t'apporte soit distribué aux gens qui t'accompagnent. Pardonne ma faute, je te prie. Le Seigneur t'accordera une maison stable, puisque tu mènes les guerres du Seigneur. Qu'on ne trouve donc jamais rien de mauvais en toi. Si un homme te poursuit et en veut à ta vie, ta vie sera gardée précieusement auprès du Seigneur, ton Dieu, mais tes ennemis, il les lancera au loin du creux de la fronde. Lorsque le Seigneur t'aura fait tout le bien qu'il t'a promis et qu'il t'aura institué chef sur Israël, tu ne risqueras pas de chanceler ou de trébucher dans ton cœur pour avoir, sans raison, répandu du sang et pour avoir voulu assurer toi-même ton salut. Lorsque le Seigneur t'aura fait du bien, tu te souviendras de moi. David dit à Abigaïl : béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé à ma rencontre en ce jour. Béni soit ton discernement, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de verser le sang et d'assurer moi-même mon propre salut. Par la vie du Seigneur, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, si tu n'étais pas venu si vite à ma rencontre, d'ici à l'aube, il ne serait pas resté un seul des mâles de Nabal. David prit ce qu'elle lui avait apporté et lui dit : monte chez toi en paix. Regarde, je t'ai écouté et je t'ai accueilli favorablement.
Merci, cher Luc. Ben, je vous invite, chers amis, à la prière. Nous allons essayer de décortiquer un petit peu ce passage et voir ce que cela veut nous dire. Donc, prions ensemble. Seigneur, nous te louons pour ta parole. Nous te louons que ta parole éclaire encore notre chemin. Donc, montre-nous ton chemin ce matin, nous te prions. Donne-nous non seulement d'écouter, mais aussi de mettre en pratique, d'obéir. Et cela, Seigneur, pour ta seule gloire, nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais je n'ai pas, enfin, tout à fait terminé cette histoire. J'ai voulu juste lire la fin ensemble, ou juste pour vous, et poursuivre donc avec mes réflexions là-dessus. Donc, on continue avec le verset 36. Abigail arriva auprès de Nabal. Il y avait chez lui un véritable banquet royal. Nabal avait le cœur content, il était complètement ivre. Elle ne lui raconta rien jusqu'à l'aube. Au matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Il reçut un coup au cœur et il devint comme une pierre. Environ 10 jours après, le Seigneur frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et dit « Béni soit le Seigneur qui a défendu ma cause dans l'outrage qui m'avait fait Nabal et qui m'a tenu à l'écart du mal. » Le Seigneur a fait retomber sur la tête de Nabal le mal qu'il avait fait. David fit demander Abigail en mariage. Les gens de David arrivaient chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi « David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour femme. » Elle se leva, se prosterna face contre terre et dit « Je suis ta servante, je serai une esclave pour laver les pieds de tes serviteurs, mon Seigneur. » Abigail s'empressa de se relever, elle monta sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles, elle suivit les messagers de David. Ainsi, elle devint sa femme. Puis, il y a quelques détails par rapport à d'autres femmes, et Saül et sa fille. Donc, c'est un peu comme un film, je pense, ce passage qui met du bon humeur, n'est-ce pas? Il y a, au début, une femme mariée à un vil homme, et il y a une fin lorsque cette femme a trouvé son prince charmant, David. C'est une variation, je dirais, d'un classique de Disney, Belle et la Bête, non? On voit les deux personnages au verset 3 de notre passage. Donc, le nom de cet homme était Nabal et le nom de sa femme était Abigail. C'était une femme de bon sens et fort belle. Mais l'homme, la bête, était dur et mauvais dans ses agissements. Donc, la stupidité de Nabal met en danger tout le monde, mais le bon sens d'Abigail les sauve. Nabal, quant à lui, trouve sa mort à la fin de notre passage, et Abigail, quant à elle, elle rejoint David, l'homme qui l'apprécie et qui l'admire, et elle va à son rencontre avec ses 5 femmes qui l'accompagnent. C'est la fin du film, si vous voulez. Le générique passe, la musique souligne l'émotion. Tous sortent du cinéma souriant. Ah, la vie est belle, après tout. Bon, cela pourrait nous paraître un peu étrange, si nous avons suivi 1 Samuel jusqu'ici, de trouver ce récit à ce moment-ci. Parce que nous avons suivi Saül, le roi actuel, qui, lui, a rejeté l'autorité de Dieu, qui, lui, poursuit David, qui, lui, est le roi désigné par Dieu. Et Saül le poursuit avec jalousie, par rage personnelle. Mais tout d'un coup, pendant tout un chapitre ici, au chapitre 25, on n'entend rien de Saül. C'est comme s'il y a une petite pause dans le narratif. Mais comment comprendre, alors, ce texte? Pourquoi, à ce stade de l'histoire, trouvons-nous cette pause dans le narratif, cette histoire qui nous introduit 2 personnages, Nabal et Abigail, qui jusque-là sont inconnus pour nous? Bon, j'aimerais mentionner 2 indices avant d'aller vers nos 2 points. Le premier indice, c'est la mention toute courte au début, au verset 1 de Samuel. Verset 1, Samuel, d'où tire le nom de ce livre, Samuel mourut. C'est Samuel, le prophète, qui a oint Saül comme roi. C'est aussi lui qui annonçait plus tard à Saül que puisque Saül avait rejeté la parole de Dieu, alors l'Éternel rejetait Saül. C'est Samuel ensuite qui oint David comme celui qui sera le roi après Saül. Et étant donné le rôle donc majeur de Samuel, ce n'est pas étonnant que le texte continue au début du chapitre 25 en disant que tout Israël se rassembla pour se lamenter sur lui et on l'ensevelit chez lui à Rama. je pense que l'ombre, si on veut, de Samuel tombe sur cet épisode. Quand lui, Samuel, tentait à rappeler au roi l'importance de l'obéissance au Seigneur. Et ce que nous trouvons pendant cette période de transition, si vous voulez, entre Saül qui est le roi et entre David qui deviendra roi, nous posons la question, est-ce que David, alors, sera un roi différent de Saül? Ou est-ce que David deviendra lui aussi comme Saül? C'est cette histoire-ci, je pense, qui permet à David de comprendre qu'il ne doit pas ressembler à Saül. Donc ça, c'est le premier indice. Mais si l'histoire commence avec la mort de Samuel, évidemment, l'histoire termine avec la mort de Nabal. Et ça, c'est le deuxième indice. Nabal, c'est l'opposé, si on veut, de Samuel. Samuel est sage, Nabal est fou. Abigail le dit au verset 25, n'est-ce pas? Son nom, c'est Nabal. Un fou, un homme comme son nom, sans morale. Il y a chez lui de la folie. Donc, de la folie parce qu'il était opposé à David, le roi désigné par Dieu. Et donc, voilà, je pense, les deux indices, nos deux constats majeurs. Et la personne clé pour que ces deux indices se traduisent en des points pour nous à comprendre, la personne clé, c'est Abigail, n'est-ce pas? C'est elle qui agit différemment de Nabal. C'est elle aussi qui arrive à persuader à David de changer de direction. La direction que lui poursuivit, de punir, se venger sur Nabal. Elle qui était dans un sens le moins important, la personne la moins importante de toutes ces personnes dans ce récit, c'est elle qui se montre ultimement le plus conséquente parce que son rôle porte sur David et aussi sur Nabal et ses hommes. Donc voyons ces deux points là ensemble. Vous allez voir ces deux points sont sur le verso de votre feuillet si vous voulez les suivre. Premier point, ne soyons pas idiots. Ne soyons pas idiots, assurons-nous plutôt de bien réagir envers le roi désigné par Dieu. Assurons-nous plutôt de bien réagir envers le roi désigné par Dieu. Nabal, verset 2, c'est un homme d'affaires de moyens très considérables à l'époque. Mais c'est un imbécile. Non pas parce qu'il est riche. Peut-être vous trouvez que certains qui sont riches sont des imbéciles, mais ce n'est pas toujours le cas. Non, parce que lui, il est radin. Il est fier, il est orgueilleux. Ce n'est qu'au verset 15 que nous apprenons pourquoi ou à quel point Nabal est idiot. Car c'est là où l'un des serviteurs de Nabal explique à Abigail que pendant le temps que les moutons de Nabal étaient dans la campagne avec ses serviteurs, David et ses hommes, au lieu de laisser les serviteurs et ses moutons à la merci des voleurs, tout ce que vous voulez, non, verset 16, ils nous ont servi de murailles nuit et jour. Donc, ils étaient fort utiles envers Nabal. Donc, lorsque David, au début de ce chapitre, envoie des hommes à Nabal au moment de la tonde de ses moutons pour que Nabal leur fasse un geste de reconnaissance, ce n'est pas comme si David cherchait à faire du racket. Peut-être vous avez pensé ça. Non. Non. La culture du jour dit que lorsque quelqu'un te fait un geste sympa, c'est d'office le cas que par courtoisie, on cherche à répliquer ce geste semblable. La culture du jour dicte également que lorsqu'il y a des visiteurs, ce qui était le cas des visiteurs de David vers Nabal, c'est la moindre chose de leur montrer de l'hospitalité. Et cela signifie dans cette culture qu'il faut honorer ces visiteurs avec estime, avec générosité. Notre culture aujourd'hui ne fonctionne pas, en tout cas la culture européenne ne fonctionne pas tout à fait de la même manière, mais il y a encore des endroits où c'est le cas que la culture, c'est comme ça. Je pense qu'en partie, c'est l'une des raisons que nos frères et sœurs d'arrière-plan africains ont parfois une conception de temps plus fluide que nous, les Européens. Car l'hospitalité dicte que si quelqu'un vous rend visite de manière imprévue, vous croisez quelqu'un sur la rue, vous ne pouvez pas simplement leur dire « Oh, désolé mes amis, mais j'ai rendez-vous dans quelques secondes. Donc, content de vous voir, allez, bonne journée. Okay, » non. La culture dit qu'on doit les accueillir. On doit leur accorder du respect. Donc, leur parler pendant un moment. Il faut leur donner du temps par simple courtoisie. Et donc, nous, les Européens, on est en train de dire « Mais c'est impoli d'être en retard, vous savez ?» Non, mais il faut respecter l'heure. Et donc, oui, mais c'est impoli de ne pas manifester de la générosité, de l'hospitalité envers quelqu'un d'autre. Et Nabal, si vous voulez, il brise la culture dans laquelle il se trouve. Okay? C'est la moindre des choses pour lui de rendre quelques moutons à David comme signe de courtoisie. Bien sûr, il doit le faire. David, derrière verset 8, s'est présenté avec tact et humilité envers Nabal, n'est-ce pas? Donne-nous donc, je te prie, pour nous qui sommes tes serviteurs et pour David, ton fils, ce que tu as sous la main. Mais le caractère de Nabal est tel qu'il reçoit mal cette requête. On le voit d'ailleurs dans la même réaction de ses serviteurs avant d'entendre la réaction de Nabal lui-même. Parce que verset 9, lorsque les gens de David furent arrivés, ils parlèrent exactement ainsi à Nabal. Au nom de David. Puis, ils se turent. Oui, ils se turent parce qu'ils connaissent très bien le maître. Fin du verset 17, le serviteur dit ceci à Abigail à propos de Nabal. Quant à lui, c'est un homme sans morale, impossible de lui parler. Des coups de colère de leur maître, ils ont l'habitude. Cela ne sert à rien d'insister trop parce qu'il va simplement réagir. La colère, vous savez, est souvent utilisée comme ça, n'est-ce pas? Même aujourd'hui, c'est un moyen de manipuler les autres, à se plier à notre volonté, à ne plus poser des questions, à faire ce qu'on veut qu'ils fassent. Pas de surprise donc que Nabal répond au serviteur de David, ainsi au verset 10. Qui est David? Qui est le fils de Jessé? Implicitement, il sait très bien qui est David, mais il sait que c'est le fils de Jessé. Abigail, son épouse aussi, lui fait comprendre qu'ils savent très bien de qui il s'agit. Mais Nabal l'insulte en disant « Il y a aujourd'hui beaucoup d'esclaves qui s'enfuient de chez leur maître. » Et c'est avec du mépris aussi qu'il ajoute verset 11 « Je prendrai mon pain, mon eau et la viande que j'ai préparée pour mes tendeurs et je les donnerai à des gens dont je ne sais même pas d'où ils sont. » Non, il est radin. Il est indépendant. Et il est fier de l'être. Il ne veut pas reconnaître David, le roi désigné par Dieu. Lui, il pense être à l'abri de tout ce que David pourrait le faire. Pour lui, David, c'est un pauvre réfugié qui se cache dans la campagne. À ce moment-là, c'était le cas. Mais Abigail, sa femme, elle, comprend l'erreur. Lorsqu'on lui raconte ce qui s'est passé, elle réagit vite avec du bon sens, n'est-ce pas? Elle prend tout ce qu'elle peut pour pouvoir aux besoins de David et de ses hommes. Et sans tarder, ni consulter son mari, on remarque, elle va à l'encontre de David. Et lorsqu'elle le voit, elle tombe à ses pieds. Au verset 24, elle assume la faute de son mari. À moi la faute, mon Seigneur. Laisse-moi te parler, je t'en prie. Écoute mes paroles, je suis ta servante. Verset 27. Maintenant que le cadeau que je t'apporte soit distribué aux gens qui t'accompagnent, pardonne ma faute, je te prie. Le Seigneur t'accordera une maison stable. Puisque tu mènes des guerres du Seigneur, qu'on trouve donc jamais rien de mauvais en toi. Quelle différence, Abigail, par rapport à Nabal, n'est-ce pas? De manière assez remarquable ici, elle se projette, Abigail, dans l'avenir lorsque le Seigneur donnera en 2 Samuel des promesses à David par rapport à sa descendance. Il aura une maison, une lignée de ceux qui vont hériter le trône. Elle sait que David se trouve du côté du Seigneur. Elle sait ce que cela signifie. Verset 29. Si un homme te poursuit et en veut ta vie sera gardée précieusement auprès du Seigneur. Ton Dieu, mais tes ennemis, c'est-à-dire des gens comme Saül, comme Nabal, il les lancera au loin du creux de la fronde. Elle sait, verset 30, que le Seigneur a promis la royauté à David, qu'il sera chef sur Israël. Et donc, elle fait tout pour que David soit propice envers elle. Elle a compris que c'est pas sage de se retrouver du côté des ennemis de David. Cela, Nabal, évidemment, il découvre pour lui-même à la fin du verset 38. Environ 10 jours après, le Seigneur frappa Nabal et il mourut. Oui, c'est lui, le Seigneur, qui intervient, n'est-ce pas? C'est ce que David comprend également, lorsqu'il apprend la nouvelle. Qu'est-ce qu'il dit, verset 39? « Béni soit le Seigneur qui a défendu ma cause en outrage que m'avait fait Nabal. Le Seigneur a fait retomber sur la tête de Nabal le mal qu'il avait fait. » Abigail donc prend des mesures nécessaires pour tenter sa chance d'apaiser la colère de David. Nous voici donc avec deux approches, si vous voulez, à propos de David, le roi choisi par Dieu. L'approche de Nabal, l'approche d'Abigail. Le chemin de la folie ou le chemin de la sagesse. Et pour nous, ici, rassemblés ce matin, il n'est pas question de David, le roi désigné par Dieu, mais il est question du fils de David, le roi davidique par excellence, le Seigneur Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, il y a ces deux approches qui sont en vigueur, vous savez, de la folie et de la sagesse. Beaucoup sont ceux qui ne voient pas pourquoi aujourd'hui ils doivent réagir différemment par rapport à Jésus-Christ. Les raisons, si vous voulez, de Nabal pour rejeter Jésus n'ont pas fort changé depuis le temps de Nabal. Certains ne croient pas que Jésus est important, tout simplement. Jésus, qui est-ce? Jésus-Christ. Un charpentier israélite qui a vécu sur terre il y a plus de 2000 ans et il ose réclamer mon obéissance. Non, merci. Mais évidemment, de telles personnes ignorent que c'est Jésus, c'est le Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, qui a vaincu la mort, qui règne aujourd'hui. D'autres personnes diront qu'ils sont trop indépendants, vous savez. Jésus demande, et c'est vrai que nous nous renonçons à nous-mêmes pour suivre Jésus. Mais beaucoup sont inconfortables avec cette idée de suivre un Dieu, divinité, lorsque pour eux, ça se heurte au principe de leur raison humaine. Suivre un tel Dieu ainsi pour de telles personnes fait preuve d'aveuglement, non pas de liberté. Mais cela cache la réalité que la liberté que eux y cherchent n'est pas la vraie liberté, vous savez. La liberté d'être comme notre Créateur a voulu, et il veut encore. Non, la liberté devient esclavage. Esclave à nos désirs, esclave à nos idoles, les faux petits dieux que nous créons pour remplacer le Dieu qui est là. Laisse-moi vous donner un exemple de cela pendant cette période d'examen. C'est le cas pour les étudiants, mais c'est le cas aussi pour les parents qui ont des étudiants. Vous savez, fréquenter une église locale régulièrement, habituellement, fait partie de la volonté de Dieu pour son peuple. Le Nouveau Testament est très clair là-dessus. Mais lors des examens, beaucoup diraient que suivre Jésus ici à la lettre, c'est simplement pas raisonnable. La raison humaine dit que nous devons tout faire pour avoir de bonnes notes. Rater l'église pendant un temps, bon, ça, c'est pas important. Je reviendrai quand j'ai le temps. Mais voulant notre indépendance de Jésus et de ce qu'il nous dit, au lieu d'être réellement libre, nous devenons esclaves de l'idole de la réussite. Sacrifions tout pour que cette idole soit satisfaite. Donc, beaucoup sont trop indépendants par rapport à Jésus, vous savez. D'autres sont trop fiers. Abigail nous a montré le seul moyen de nous approcher du roi désigné par Dieu, d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça se fait aux genoux. Nabal, lui, tenait debout, fier de ce qu'il était. Jésus-Christ, le roi désigné par Dieu, il n'est pas impressionné, chers amis, par notre fierté, vous savez. Ni la fierté dans nos accomplissements religieux. Parce que là, maintenant, si nous avons la personne qui dit, bah, vous savez, moi, ça fait 52 semaines de suite que je suis présent à l'église locale, ça doit compter pour quelque chose devant Dieu, hein? Non. Jésus n'est pas impressionné par notre fierté devant lui. Non, il fait grâce à ceux qui reconnaissent leur besoin de pardon, qui s'agenouillent devant lui. Certains sont trop faibles, d'autres sont trop confortables, chers amis, simplement. Nabal ne voyait pas le besoin d'aider David. Il avait, selon lui, tout dont il avait besoin. Mais il lui manquait la seule chose qu'il lui fallait. Une relation rétablie avec le roi désigné par Dieu. Oui, mes amis, pour nous, ici aussi, pendant un temps, tout peut sembler confortable dans la vie. Pas Dieu, pas de problème. Confortable, vous savez. Et ce confort peut nous rendre aveugles à notre besoin primordial de nous réconcilier avec le roi des rois. Abigail en était consciente. Donc ne soyons pas idiots. Réconcilions-nous avec le roi avant qu'il fasse trop tard. Mais revenons à ce que David disait lorsqu'il apprenait que Nabal est mort, verset 39. Béni soit le Seigneur qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'avait fait Nabal, qui m'a tenu à l'écart du mal, le Seigneur. Et c'est cette dernière remarque qui soulève pour nous la deuxième chose à noter, deuxième contraste entre David avant sa rencontre avec Abigail et David après sa rencontre avec Abigail. Car le Seigneur, grâce à Abigail, a tenu David à l'écart du mal. Le mal de vouloir se venger. Donc, deuxième point, ne soyons pas motivés par la vengeance personnelle. Suivons les traces de Jésus qui se remettait au juste jugement de Dieu. Ne soyons pas motivés par la vengeance personnelle. Suivons les traces de Jésus qui se remettait, lui, au juste jugement de Dieu. Avant de rencontrer Abigail, David, en apprenant les insultes de Nabal, se mettait en colère. Il se préparait pour se battre au verset 13. Nabal a rendu le mal pour le bien. David veut sa revanche. Et verset 22, qu'est-ce qu'il dit, David? Que Dieu fasse ceci à David, qu'il ajoute cela, si je laisse subsister jusqu'au matin un seul mal de tous ceux qui appartiennent à Nabal. Bon, ici, on voit un trait de caractère de David qui n'était pas présent dans le chapitre précédent, pour ceux qui se rappellent de cela. Là où David ne voulait même pas toucher Saül, malgré le mal que Saül voulait le faire. David avait l'occasion de tuer Saül. Mais il disait non, il ne devait pas poursuivre cette voie. Mais maintenant, c'est un autre David qui veut se venger. Oui, c'est vrai, Nabal, ce n'est pas Saül. Saül, c'était le roi. Nabal, c'est simplement un idiot. Mais en réagissant comme il le fait, David commence à ressembler à qui? À Saül. Car c'est Saül, souvenons-nous, qui rasait l'entièreté de la ville de Nob lorsqu'il était fâché avec Ahimelech, le grand prêtre qui avait aidé David. Et maintenant, David veut se venger sur tous les hommes de Nabal. Mais après sa rencontre avec Abigail, c'est différent, n'est-ce pas? Verset 32. David dit à Abigail, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé à ma rencontre en ce jour. Béni soit ton discernement et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de verser le sang et d'assurer moi-même mon propre salut, c'est-à-dire de me venger. » par la vie du Seigneur, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal si tu n'étais pas venu si vite à ma rencontre. D'ici à l'aube, il ne serait pas resté un seul des mâles de Nabal. » Mais qu'est-ce qu'elle avait dit aussi, alors, Abigail, à David, qui a fait la différence? Verset 31. Elle lui disait que si David pardonne, alors, verset 31, il ne risquera pas de chanceler ou de trébucher dans son cœur pour avoir sans raison répandu du sang et pour avoir voulu assurer toi-même ou soi-même son salut. C'est-à-dire se venger lui-même. Donc David, grâce à Abigail, a pu comprendre ici le principe qui se trouve déjà dans la loi de Moïse, en Deutéronome. À moi la vengeance. Moi, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. David devait faire confiance au Seigneur au lieu de poursuivre le chemin tracé par Saül. Et vous savez, en ce faisant, David de nouveau pointe le doigt vers son descendant ultime, Jésus. Jésus-Christ nous dit, 1 Pierre chapitre 2, la fin de ce chapitre, « Lorsqu'il était insulté, Jésus ne rendait pas l'insulte. Quand il souffrait, Jésus ne proférait pas de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. » Ce n'est pas que Jésus, quand il ne répondait pas, blanchissait, si vous voulez, les insultes et les souffrances. Non, nous dit la Bible, il viendra un moment où tous comparaîtront devant le tribunal du Christ. Mais à ce stade de son ministère, il était le moment pour lui de porter nos péchés sur la croix, de nous sauver par sa mort et sa résurrection. Jésus disait derrière dans l'évangile de Jean qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il est envoyé par le Père à cette fin-là. Si Jésus cherchait la justice immédiate lorsqu'on l'a insulté, il aurait gâché le plan de Dieu. Mais il se remettait à Dieu, sachant que la vengeance est à Dieu. Au lieu donc de refléter Saül, David prend un autre chemin, le chemin qui nous mène à Christ. Et Abigail continue, chers frères et sœurs, à travers ce texte d'1 Samuel 25, à faire comprendre au peuple de Christ cette même leçon aujourd'hui, car nous aussi, en tant que peuple de Dieu, nous devons toujours apprendre que la vengeance est à Dieu. C'est pour ça qu'on a commencé ce matin avec la lecture dans l'Épître aux Romains. Romains chapitre 12, verset 17 nous a dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire ce qui est bien devant tous. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Ne vous faites pas justice vous-même, bien-aimés, mais laissez la place à la colère. » Car il est écrit, c'est moi qui fais justice, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. Paul, là, s'adresse à des chrétiens à Rome. Il n'est pas naïf au sujet des chrétiens, vous voyez. Nous courons encore aujourd'hui le danger de vouloir imposer la justice, telle que nous le voyons, nous. Parce que la vengeance, vous savez, ça prend beaucoup de formes. N'est-ce pas? J'étais sur Internet pour essayer de trouver quelques exemples de vengeance et j'étais frappé à quel point il y a les 10 premières recommandations sur Internet. C'est comment est-ce qu'un époux ou une épouse peut se venger de son mari ou de son épouse lorsqu'il est trahi. Okay? Boum, ça m'a un peu sauté aux yeux à quel point c'est développé toutes les stratégies de vengeance. Oui, parfois, il peut y avoir vengeance à grande échelle, même parmi nous. Mais au sein de l'Église, je pense que c'est souvent des petites choses qui démontrent notre difficulté de ne pas laisser la justice dans les mains de Dieu. Je pense à plusieurs choses, vous savez. Je pense à la personne offusquée parce que quelqu'un d'autre a dit et qui cherche à punir son frère ou sa sœur par le silence. qui boude pendant un long moment dans son coin, qui évite de parler à quelqu'un d'autre. Je connais deux femmes dans une autre église qui ne se parlent pas d'après des années. Et tous les dimanches, ils fréquentent la même église, ils chantent les mêmes louanges au Seigneur. C'est triste. Je pense à des petites remarques cassantes qui, devant les autres les entendent, remettent la personne qui nous a blessés à sa place. Je pense à celui qui parle derrière le dos d'un frère ou d'une sœur pour noircir la réputation de ce frère ou de cette sœur. Je pense à des personnes qui rendent quelque chose public trop vite afin d'exposer l'autre au lieu de vouloir trouver l'autre pour résoudre la difficulté. Ça m'est arrivé il y a quelque temps, pas dans cette église, quand je disais quelque chose à quelqu'un, assez anodin dans un sens, mais la réaction, au lieu de me trouver, c'était d'écrire un mot aux quatre anciens, quatre responsables de l'église, pour que ces anciens m'en parlent. Donc tout de suite, j'étais exposé à ma faute. Et la personne aurait dû me trouver d'abord, avant de parler à d'autres personnes. Je pense à ceux qui sont incapables d'assumer une critique sans chercher tout de suite à se défendre et en faisant mention de ses propres critiques à l'autre. C'est souvent le cas, n'est-ce pas? Surtout quand il s'agit d'une critique qui semble exagérée. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on veut se défendre. Et c'est une façon de se venger. Ok, tu veux parler de ça? Très bien, maintenant moi je vais parler de ceci. C'est la vengeance. Je pense à notre façon de répondre simplement trop vite, avec un ton un peu sec ou un peu dur lorsqu'on se sent visé. Que ce soit dans un mail qu'on écrit en répondant trop vite ou un post sur Facebook ou autre chose. Je pense à ceux aussi qui, après avoir dit quelque chose trop hâtivement, qui disent bah, « Vous savez, si l'autre prend ça mal, c'est son problème. » C'est pas son problème, c'est votre problème. Je pense à notre réaction lorsqu'on entend parler de la chute de quelqu'un qui nous a offensés dans le passé. Il le méritait, n'est-ce pas? Peut-être on ne le dira pas, mais est-ce qu'on le pensera? David devait apprendre la voie de se remettre à Dieu dans toutes ces circonstances. Vous savez, le plus qu'on s'approche du pouvoir, plus que nous sommes tentés de vouloir défendre notre réputation à n'importe quel prix. C'était le cas de Saül. Ça aurait pu être le cas de David, nous sommes en train de découvrir. C'est le cas pour des responsables politiques de notre jour. Mais vous savez, c'est aussi le cas pour des responsables d'église de vouloir défendre leur réputation à tout prix. Nous ne sommes pas à l'abri de ce danger-là. Abigail, me semble, elle a encore du travail à faire parmi nous, de refléter notre roi, le Seigneur Jésus-Christ, qui lui s'en remettait à Dieu, et donc lui qui est digne de notre confiance. Deux points, nos chers amis, pour nous, ne soyons pas idiots, ne soyons pas idiots, ne soyons pas ceux qui réagissent mal envers le roi désigné par Dieu, Jésus-Christ, si vous n'êtes pas en ordre avec Jésus-Christ. Donc, mettez-vous en ordre avec lui. Sinon, vous êtes idiots, nous dit ce texte, comme Nabal. Et deuxièmement, ne soyons pas motivés, chers frères et sœurs, par la vengeance personnelle. Suivons plutôt les traces de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, qui se remettait au juste jugement de Dieu. Je prie. Prions ensemble. À quel point, Seigneur, nous te louons pour Jésus, qu'il est notre Seigneur, il est également notre Sauveur. Lui, que lorsqu'il était insulté, ne rendait pas l'insulte. Lui, quand il souffrait, ne proférait pas de menaces. Mais lui qui se remettait à celui qui juge justement. Quelle joie, Seigneur, d'avoir Jésus-Christ. comme Seigneur, comme Sauveur. Nous te prions, Seigneur, que tu nous pardonnes. Pardonne-nous si nous sommes idiots jusque-là d'avoir refusé l'autorité et la place primordiale de Jésus-Christ dans notre vie. Donne-nous de réagir comme il faut envers ce roi qui règne, ce roi qui se donne pour nous à la croix. Et aussi pardonne-nous, Seigneur, pour notre faiblesse, notre péché d'encore chercher à se défendre trop vite, à se venger dans toutes ces diverses manières. Donne-nous, Seigneur, d'apprendre de Jésus de nouveau, de suivre son exemple. Merci pour Abigail, pour ce qu'elle a pu enseigner à David même. Et donne-nous donc d'apprendre ces choses et de te glorifier au sein de cette assemblée. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais nous allons terminer, chers amis.